adversaire. Si vraiment dans ce monde, dans cette vie, j'ai eu un concurrent direct, c'était mon père.
Rendez-vous au secteur A, tu signes ton contrat.
Voilà.
T'as ton avance.
J'ai mon avance.
Et là, c'est...
Et là, la vie a changé. Parce que non seulement j'ai eu mon avance, mais en plus, ils m'ont payé énormément de matériel pour bosser la musique et tout ça. C'était... Ouais, on était reparti, on était parti sur une nouvelle vie. Là
t'es super content. Là.
J'étais aux anges.
Ouais. Et donc là, tu décides de bosser avec Silka, ton manager.
Exactement.
Silka, ton grand frère, devient ton manager.
Voilà, exactement.
Ouais. Il y a quand même une petite embrouille avec le secteur A, c'est que tu signes, mais tu es là un an, deux ans, trois ans. Et
les années passent, pas d'album, rien, machin, et je me dis, mais oh, cette histoire qui avait si bien commencé...
Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est la magie du tiroir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je commençais à les traiter de tous les noms au fond de moi. Jamais je leur ai fait en face parce qu'ils étaient quand même... non, j'avais beaucoup d'incompréhension. Et donc, le rapport devenait très tendu. Très tendu. Ce que je ne comprenais pas, c'est que je n'étais pas prêt.
Ouais.
Je n'étais pas prêt. Ce n'est pas parce que tu as réussi à faire une bonne chanson que
tu es prêt à faire un album.
Et même que tu es prêt à aller parcourir le monde ou la France, défendre un projet, tu vois, sous différents angles, différentes thématiques, parce que sur un album, tu ne peux pas faire une seule chanson en boucle. Voilà, il y avait pas mal de choses que je devais apprendre.
Que je devais apprendre, ouais. Et pendant ce temps-là, tu écrivais des chansons, tu as écrit pour Willy Denze et Asia.
J'écrivais, en fait, parce que des artistes m'avaient demandé des chansons, mais par exemple, la chanson que j'avais écrite pour Willy Denze n'a jamais figuré sur son projet, vu que je l'ai interprété moi-même, c'était Aïcha.
Et à la base, elle était pour Willy.
À la base, elle devait être pour Willy,
ouais.
Enfin, que j'ai écrit, qu'on a écrit, Dave et moi. Parce que bon, dans l'histoire, j'oublie de dire que j'écrivais et composais avec...
Avec Dave.
Avec Dave.
Petite Aïcha, chaque fois que je te vois, j'hallucine. Ne la raconte pas, ne fais pas comme toutes tes copines.
Un jour, les gars t'appellent parce qu'ils ont écouté deux, trois chansons écrites par toi.
Ouais, après avoir écouté une chanson qu'on avait écrite pour Asia,
elle
a dit: ah, mais là, je te sens dans une
nouvelle vibe,
nouvelle énergie. Là, est-ce que tu voudrais pas composer deux, trois nouveaux titres dans cette énergie-là? Je pense que ça va être porteur. J'ai dit, mais j'ai justement des nouveaux titres. Il fait, ah ben, quand est-ce que tu peux passer de me faire écouter? J'ai fait, quand tu veux. Il fait, vas-y, je t'attends. Tu peux être là dans une heure? J'ai fait, ok. J'ai été et je leur ai fait écouter Aïcha, c'est trop, et elle me saoule. Il a écouté, il a fait, mais c'est royal.
On prend les trois,
tu peux enregistrer ça là. Ok, il a organisé les séances de studio, on a été enregistré directement. Et en même temps, il a payé les cordes de l'Opéra de Paris pour jouer les violons sur
deux titres.
J'avance en chantant et ma conscience, avec l'un des plus grands arrangeurs de violons de France. Donc c'était...
Ils ont amené un guitariste des Wailers aussi.
Ils ont amené aussi un guitariste des Wailers.
Ouais. En fait, ils mettaient vraiment les moyens pour la musique.
Ah oui, non, c'était vraiment de la vraie musique. On n'était pas dans un truc de... Allez, c'est de la musique urbaine ou c'est de la musique ci, ça. Non, c'était tout de suite, ils visaient... ils voulaient qu'on rentre dans l'histoire.
J'avance en chantant, oubliant douleur et peine. Si je puise ma force en pensant à ne jamais regarder derrière. J'avance en chantant, oubliant douleur et peine. Si je puise ma force en pensant à ne jamais regarder derrière.
Et toi, tu te disais, ils sont vraiment en train de jouer sur ma chanson là?
Ouais, mais je me disais, mais... Oh. Moi, le petit mec de Sergi, moi, le petit SDF, moi, le petit ici, là, eux, ils investissent autant sur moi. Tu sais, quand t'as, je sais pas combien de violonistes, une vingtaine de violonistes de l'opéra, là, qui sont en train de jouer sur le truc que t'as composé dans ton coin, dans ton bout de chambre. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a une différence.
Il y a un truc, il y a un
j'ai
truc.
J'ai pas ce prestige-là, je...
Ouais. Ils voulaient vraiment faire les choses bien.
Ils voulaient vraiment faire les choses bien et surtout, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus du jeune qu'ils avaient rencontré. Même s'ils avaient un langage un petit peu dur avec moi, ils savaient ce qu'ils faisaient et puis ils ont décidé de faire le chemin avec moi, donc pour eux il fallait le faire de la meilleure façon qu'il soit.
Ouais. Donc là, premier single.
Premier single, Ma conscience.
Classique.
Ouais, c'est un classique.
Ouais.
Et les gens ont très très bien réagi. Il n'est pas rentré sur toutes les radios. Mmh. Les gens ont très très bien réagi. Ils m'ont fait un gros gros clip. Ils ont fait venir les meufs des États-Unis et tout.
Clip à l'américaine.
Clip à l'américaine, je suis en Porsche et tout, alors que je prends le métro et je le paye même pas. tu vois, c'est. Non, c'était un truc de malade. Maison de folie, des chef-op de. Non, c'était vraiment. J'avais rien à envier à Usher ou quoi que ce soit.
Ouais. Énorme.
Ah, énorme. À ce moment-là, en fait, si tu veux, c'est marrant parce que si on fait le parallèle avec le vécu. Chez mon père, lui qui voulait absolument la perfection et patati patata. Moi, dans ma façon de composer, j'ai toujours cherché l'imperfection. C'est-à-dire que j'aime tracer, surligner les défauts. Une voix un petit peu cassée, j'adore. Un texte avec un personnage un peu bizarre, j'adore. Qu'on voit vraiment les défauts de l'homme ou de la femme, le vice et tout ça. Tu vois ?
D'ailleurs, ton père, puisque tu en reparles, un jour, tu l'as recroisé. Parce qu'à un moment, chaque soir, chaque nuit, tu rêvais d'une personne. Et le lendemain, tu rencontrais la personne. Et une nuit, tu as rêvé de ton père.
Ouais, et c'est une période bizarre. Vraiment, c'est comme si je faisais des... Enfin, c'est pas comme si je faisais des rêves prémonitoires, alors que je ne suis pas du tout superstitieux. Et un jour, je rêve de mon père. Donc le lendemain, quand je me lève, j'en parle à tout le monde. Ouais, j'ai rêvé de mon père alors que chaque fois que je rêve de quelqu'un, je vois la personne. Je vais chez un pote. Pendant que je lui raconte l'histoire, pendant qu'on se balade, on croise mon père, que je n'avais pas vu depuis au moins 13 ans. Donc quand je le vois, je voulais pas le...
Tu voulais lui parler ou quoi?
Je voulais pas l'aborder. Je me suis même caché sous mon bonnet. J'avance. Je dis à mon pote, il dit, mais va le voir. Mon frère, finalement, enfin, j'appelle mon frère. Mon frère me dit, allez, va le voir. Donc, je vais le voir. Je parle avec lui directement. Il parle avec lui comme si on. Il parle avec moi comme si on s'était vu le matin. Ah, Cyril, comment tu vas? Il n'était pas fâché dans sa façon d'être, alors que. Depuis tout ce temps-là, on n'était plus en contact.
Tu lui avais envoyé des lettres, il n'avait pas répondu.
Il
ne
m'avait jamais répondu. Et même une fois, je l'avais appelé, il m'a dit de ne plus le rappeler. Donc là, la situation était bizarre. On a changé les coordonnées, mais c'était la dernière fois que je le voyais. Quoi, en fait.
Il t'a dit, prends mon numéro, dit, voilà, mais tu l'as appelé derrière, il n'a jamais répondu. Tu lui as envoyé des messages.
Voilà,
il n'a jamais répondu. Comment tu l'as vécu, tu l'as ressenti à cette époque-là, le rejet de ton père?
Ça faisait mal. Ça fait très, très, très mal. Et surtout de quelqu'un qui se prétendait si parfait. Tu vois, je me dis, mais ça, c'est quand même un domaine sur lequel il faut être irréprochable, la famille. Et donc, du coup, ça fait naître en moi une sorte de jalousie ou de compétition. Au départ, je me sentais vraiment nul. Ce mec qui est à la rue et tout ça, ou qui bataille comme ça et qui ne va nulle part en fait dans la vie, alors que son père, lui, c'est vraiment quelqu'un de connu et reconnu partout dans le monde. Et au final, je me suis dit, non, il faut absolument que, quand on entend le nom Bedaya, là, Singila sur le premier nom qui sort.
Je vais y arriver.
Voilà, donc mon adversaire, si vraiment dans ce monde, dans cette vie, j'ai eu un concurrent direct, c'était mon père. Voilà, c'est lui, ma cible.
Ouais.
C'était faire plus fort en tout cas que lui. Je ne suis pas sûr d'avoir fait plus fort que lui parce que lui, il a carrément fait des cliniques et tout ça. Donc il a sauvé des gens. Chose que moi, je n'ai pas fait. Mais le combat continue.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que tes chansons ont touché des millions de gens, et si ça se trouve, il y a des jeunes qui voulaient se donner la mort, qui voulaient tout arrêter, et qui ont retrouvé le sourire, l'envie de continuer grâce à tes chansons. Vous avez eu des outils différents, mais je pense que vous avez sauvé des vies.
C'est ça,
je pense. Parce qu'il y a des gens qui t'écoutent depuis qu'ils ont 14 ans.
C'est bien que tu dis ça.
Aujourd'hui,
et... Écoutez bien. Hein. J'ai sauvé. Non, mais c'est vrai que c'est ma façon à moi, en tout cas, de faire du bien. La musique elle-même m'a fait beaucoup de bien en écoutant certains artistes. Mmh. Ça m'a permis de rêver, exactement, de passer de très bons moments. Mmh. De prendre sur moi, d'avoir un mode de réflexion. Et j'espère que mes musiques font la même chose à certaines personnes.
Je pense que c'est une grosse erreur de ne considérer la musique comme du divertissement. C'est beaucoup plus que ça.
En tout cas, moi, la musique, je la vois comme une médecine. J'ai fait le premier album, on a commencé à me connaître, à m'apprécier. Mmh. Mais je suis arrivé en même temps que tout un phénomène R&B français qui n'avait pas une belle image. Le R&B ne faisant vraiment pas partie de la culture française, c'était pas une mélodie, c'est pas un style qui était prestigieux aux yeux des médias, en tout cas. C'est sur l'album d'après. Mmh. Qui, au final, a été moins diffusé ici, parce que...
Encore moins que...
Ah ouais,
On ne vit qu'une
fois.
Ouais,
c'était carrément là. À ce moment-là, en fait, les médias, je pense, avaient décidé de... vulgairement, fuck le R&B. tu vois, ils avaient décidé vraiment, le R&B, c'est de la sous-musique. Donc...
Le Sector A, c'était fini.
On n'était plus... le label Sector A était fermé.
Oui.
Donc, entre-temps, j'avais quitté... parce qu'on avait, pour le premier album, on avait fait une licence chez Hostile. Et sur le deuxième album, on a fait chez Universal. Et là, plus aucun média.
Et c'est Pascal Nègre qui t'avait...
C'est Pascal Nègre qui m'a... Parce que voilà, quand on a quitté EMI, parce que quand on a proposé l'album à EMI, ils ont adoré l'album et ils ont proposé une somme qui, par rapport au succès duquel je venais, semblait
dérisoire.
Donc, ils ont dit, écoutez, allez voir d'autres labels et vous allez voir que vous allez revenir ici. On a été voir d'autres labels, tous.
En proposaient plus.
En proposaient bien plus. Donc, du coup, il y avait une sorte de compétition. Tiens, j'avais écouté mon album. Ah, il faut absolument que l'album soit chez Warner. Il faut absolument que l'album soit chez Universal. Il faut Singulas qui arrive. Là, ça va être vraiment... Et donc là, mon téléphone sonne. Et c'est Pascal Nègre qui était le boss
d'Universal.
Ouais. Allô, Singulas, je fais oui, c'est Pascal Nègre. J'allais mourir. J'allais mourir. Singulas de Sergi...
Qui a Pascal Nègre au téléphone.
Galéré, qui était SDF. Là, Pascal Nègre qui l'appelle et qui lui dit « Écoute, vraiment, si tu signes chez moi, tu sais... Quand j'ai rencontré Calogero, c'était comme si c'était un petit comme ça, et voilà ce qu'on en a fait. Quand j'ai rencontré un tel, voilà ce qu'on en a fait. Et toi ? Toi ? C'est exceptionnel ce qu'on entend là, ce que tu nous as donné là. Donc déjà, rien qu'au nom de la musique, merci. Oh là là, j'ai entendu des phrases, mon frère.
Mielleuse.
Ah, mais mes oreilles ont aimé ça. Hein.
Ouais. Tu as signé direct.
Là, c'était. Il n'y avait plus moyen de retourner en arrière.
Tu pourrais plus dire non. Donc, chez Universal, tu sors ton deuxième album, Ghetto Compositeur, beaucoup plus éclectique que le premier.
J'avais compris, à force de bosser à gauche, à droite, et en bossant avec de différents artistes, que voilà, une fois que tu as la mélodie, tout ce qu'il y a autour, c'est que de l'arrangement. Tu peux aller, quand tu as compris la mélodie, tu peux aller vers la bossa, tu peux aller vers le reggae, tu peux aller vers la pop. Et ce qui est bien, c'est de prouver justement que tu peux le faire. Donc sur ce, mon challenge, en fait, sur cet album-là, c'était de montrer que, voilà, j'ai grandi en écoutant de la, telle musique, parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans une cité, tu vois, et dans une cité, comme je me plais à le dire, si ton voisin est indien, tu auras de la musique indienne chez toi. Si ton voisin est rebeu, tu auras de la musique arabe chez toi, et ainsi de suite. Donc, c'est un brassage culturel dans lequel j'ai baigné et qui fait ma force artistique. J'aurais fait plein d'écoles, j'aurais peut-être pas... j'aurais compris certaines choses musicalement, mais ça n'aurait pas fait partie de moi. Alors que là, vraiment, toutes ces musiques font partie de moi, de mon oreille, de... Et j'ai pondu tout ça, et c'est cet album-là qui a été, entre guillemets, boycotté par les médias français.
Ouais. Français. Précision importante.
Ouais. Très important, qui m'a fait vraiment péter. C'est là que Singula, c'était plus un artiste R&B, c'était un chanteur. Singula, c'est un chanteur. Singula, c'est... Oh, t'as écouté là, le Singula ? Il y a eu un... C'est comme si le R&B français était mort, pour moi en tout cas, mais le style Singula est né.
Est né, ouais.
Pour les gens. Tu vois. Et j'ai pu lâcher...
T'as pu lâcher l'affaire.
Ce truc-là, j'ai adoré. Ouais. Et c'est aussi là que j'ai vraiment découvert que la musique va plus loin que chez ton voisin ou que les limites de là où tu es né.
Ouais.
Parce que moi, j'étais en France et je visais
la France,
le marché français, tu vois. C'est là que j'ai vu qu'en fait, la musique pouvait aller bien au-delà et qu'on pouvait même mieux t'accueillir ailleurs, mieux la ressentir, tout simplement, cette musique.
Ouais.
Peut-être que le fait d'avoir autant de mélanges, autant d'influences, ben, c'était... je suis peut-être trop petit pour la France, mais je suis peut-être trop grand aussi pour certains trucs. Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, ma musique m'a permis de voyager. Et puis,
L'album n'était pas diffusé en France, mais ultra exposé sur le continent, avec notamment Ma Nature, qui est tout simplement devenu, à ce moment-là, le plus gros tube de ta carrière.
C'était le plus gros tube de ma carrière.
Ouais.
Et ce qui était marrant, c'est que ici, les médias ne l'ont pas joué. Les médias ne l'ont pas joué, mais si je fais un show ici, même avec un public franco-français, je tends le micro quand la guitare de Ma Nature commence, j'ai pas besoin de chanter.
Ouais.
C'est le public qui... Vraiment, donc, comme quoi...
Le plus gros média, à mon avis, le plus gros média pour une chanson, c'est la chanson elle-même.
Exactement.
Si elle est suffisamment forte... Absolument rien ne peut la stopper. Absolument.
Exactement.
Rien.
C'est ce qui s'est passé avec Ma Nature et c'est ce qui s'est passé plus tard avec d'autres chansons. Dès l'instant où la chanson est sortie de mon ordinateur, elle a fait son travail toute seule.
Un jour, on t'appelle. Pour te dire que ton père est très malade, qu'il a besoin d'aide et que les membres de la famille se cotisent
pour le faire venir en
France pour le soigner. Sauf que tu avais beaucoup de colère, tu en voulais beaucoup trop à ton père.
Ah oui, non, mais j'étais. Je me suis dit, je vais être comme lui. Je vais être froid et je vais ignorant. Je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer. S'il a un problème, c'est le sien. Parce que moi, quand j'avais mes problèmes, c'était les miens. Quand j'étais à la rue, il a même peut-être jamais su parce qu'il aurait pu m'arriver tout et n'importe quoi quand ton enfant est dehors, tu vois. Donc j'ai eu cette mauvaise réaction. J'ai eu une très très mauvaise
réaction. Il a tiré un trait sur moi, je tire un trait
sur
lui.
J'ai voulu la jouer comme ça. Mais... je ne suis pas lui et je ne dois pas reproduire les mêmes erreurs. J'ai fait le con.
Et un jour, tu es avec ta mère et Dave ?
Ouais, je suis avec ma mère et Dave. En fait, ma mère avait fait une panne, je ne sais où, donc elle nous a appelés. Dave et moi, on a été la récupérer. Et puis, arrivé chez elle, je vois un album, on papotait comme ça, je vois un album photo posé. Je le prends, je commence à feuilleter et je vois des photos de mon père. Mais je vois mon père aujourd'hui, quoi. Malade, affaibli, mince sur un fauteuil roulant, entouré de mes autres frères et sœurs. Même sur l'une des photos, je vois ma mère. Parce que ma mère, elle, par contre, avait quand même aidé. Mmh. Et ma mère insistait déjà avant pour que j'aide ou pour que j'aille voir mon père et tout ça. Mais moi, têtu comme je suis, hein, j'étais devenu... tu vois, j'ai toujours obéi à ma mère, hein, toujours, mmh. toujours. C'est la seule chose pour laquelle non, je suis resté... Et donc, quand j'ai vu ces photos-là, en fait, c'était beaucoup plus parlante que les mots. Une image vaut mille mots. Donc, du coup, j'ai dit à ma mère, il faudrait peut-être que j'aille voir mon père. Et elle m'a dit, je ne savais pas comment te l'annoncer, mais il est mort ce matin. Donc, voilà, j'ai cette erreur qui va me peser toute ma vie.
Jamais dit je t'aime, ne fais pas partie de ces problèmes. Pourquoi j'éprouve autant de peine pour un homme que je ne connais pas? Pourquoi je ne ressens plus de haine? Pourquoi je ressens un vide quand même? Je suis pas venu le voir avant qu'il parte. Le regret, ça fait mal.
Et cette situation-là, ce regret. Tu en as parlé dans ton troisième album.
J'ai parlé de ça, ouais, dans la chanson « Ça fait mal ».
Qui est le titre de l'album aussi.
Ouais, que j'ai écrit. En fait, j'ai écrit la chanson « Ça fait mal » parce qu'entre-temps, j'ai perdu une maman, enfin une tante. Mm. Et donc, la douleur, là, se confondait à pas mal de souvenirs. Et c'est là que la chanson est sortie et que j'ai raconté un petit peu ce moment où... je me suis retrouvé face à la dépouille de mon père, moi qui n'ai rien fait pour l'aider, mais moi qui lui reprochais tant de choses. Au final, mmh. voilà, je suis là et incapable, avec tout l'argent que j'ai ou quoi, tout l'amour finalement que j'ai, parce qu'en fait, toute la colère que j'avais, c'était que de l'amour. C'était un signal de détresse que je ne savais pas comment envoyer, donc ça se transformait en colère. Mais je voulais en fait que mon père me serre dans ses bras, chose qu'il n'a jamais fait depuis que je suis parti de chez lui à 8 ans.
Et tu en as énormément souffert, ça fait toi l'homme que tu es aujourd'hui, tu es à la fois fort et fragile.
Oui, ça a forcément fait une certaine fragilité, un certain manque, une certaine carence. Il y a pas mal de choses que je devrais... connaître, savoir de moi-même par mon père, que je ne saurais jamais, même si mes oncles et mes grands frères ont fait le travail. Il y a des choses quand même qui se transmettent de père en fils que je n'ai jamais eues. Et en même temps, ça m'a ouvert à mettre de l'eau dans mon vin sur pas mal de situations et de ne pas rendre le mal par le mal.
S'il était là aujourd'hui, ton père, s'il était là en face de toi, ouais. Tu lui dirais quoi?
T'as déconné, mec. Pourquoi est-ce que tu m'as pas plus témoigné de ton amour? Parce que je pense qu'il m'aimait quand même. Mmh. Mais je pense que son orgueil était
plus fort.
Était plus forte.
L'album, ça fait mal à cartonner également, comme tous tes albums à chaque fois.
À chaque fois que je rentrais, il y avait toujours un souci. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je me sentais toujours incompris.
Après ça, tu as sorti à nouveau le titre qui est devenu à ce moment-là le plus gros titre de ta carrière, Rossignol.
T'es là, Rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps.
L'idée de Rossignol, enfin de l'instru en tout cas, la musique est venue de Dave. On était au Niger, il a écouté des trucs en club, d'autres sonorités. Et il a composé toute la nuit. Le matin, il vient me voir, il fait « Singhi, j'ai un truc, j'ai un hit. Il faut absolument que tu pondes des mélos dessus, mais des mélos plus africanisantes. Ouais. » Il m'a vraiment donné la trame, tu vois. J'ai dit « Ok, mais bon, j'étais pas plus speed que ça. » Mais lui, il insistait. Et une fois arrivé sur Paris, il m'appelait encore en boucle. « Alors, tu as fait ?» J'ai fait « Bon, vas-y, il faut absolument que je fasse le truc, sinon il va encore continuer à me fatiguer. Lui. Donc je bosse le truc un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, et il n'y a rien d'intéressant selon moi. Rien, en tout cas, à la hauteur de ce que Dev pressent. Et à force de bosser, il y a ma mère qui était là de passage, elle me dit, elle m'envoie faire une course, et en bougeant, j'ai vu un oiseau se poser sur une fenêtre. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était un rossignol.
T'es même pas sûr, mais
t'es là, un rossignol. Je viendrai chanter. Et comme, en fait, j'ai vu rossignol, j'ai pensé à Luis Mariano, rossignol, machin. Donc, je me suis dit, mélanger un style un petit peu latino et afro en même temps. Et la mélodie est venue. C'est-à-dire que pendant ma balade, là, j'avais déjà tout le texte. J'ai enregistré avec mon téléphone comme un dictaphone. Arrivé à la maison, j'ai enregistré. Tout s'y était. Tout. Et là, j'entendais quelque chose de bon. J'entendais pas le hit parce que je ne croyais plus, en fait, au concept de cette chanson, c'est un hit.
Mais tu vois, une bonne chanson.
J'entendais une très bonne chanson. Je sais, franchement, là-dessus, en termes de musique, de mélodie et de ce que je raconte dans le texte, surtout, en plus, je me suis dit, allez, sur cette fois-ci, je vais raconter un truc qui flatte la femme, parce qu'on n'arrête pas de me critiquer. Il déteste les femmes, il a un problème, machin. Donc.
Et, là, t'as fait une super chanson de Lolo.
J'ai fait une chanson one way, comme ça, parce que l'autre, il m'a cassé les couilles.
Merci, Dev.
Merci, Dev.
Tu veux les Champs-Élysées, give me a French kiss, baby. La Tour Eiffel, le Moulin Rouge, a French kiss, baby.
L'album Entre deux, parce que dans cet album, tu présentes tes deux cultures, ta culture occidentale et ta culture africaine. Il y a Rossignol, il y a I Love Paris, il est assez ouvert musicalement aussi, et il y a vraiment tes deux côtés qui sont très, très visibles.
Ouais, exactement. Je voulais absolument, du coup, parce que je commençais à avoir pas mal d'expériences artistiques en Afrique, je voulais montrer que voilà, je suis perdu entre les deux. Je suis heureusement perdu entre les deux. Parce
et tu te nourris des deux.
Voilà, il y a du bon, y a du bon des deux côtés. Et voilà, que ce soit en termes de mélodie, et même au final, quand je réécoute mes anciens albums, il y a toujours eu une influence musicale africaine. Si, quand je faisais mon R&B, je voulais, pour être différent des Américains ou des Français, apporter une petite touche et pour et cette touche là je ne pouvais la trouver que dans mon africanisme.
Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Aïe mama
carton aussi.
Aïe mama est arrivée derrière. On a, et pour ça je me suis dit il faut qu'on réussisse, parce que je me prends vachement la tête sur les mélodies, sur la musique, sur les sonorités. On se prend la tête, parce que quand je fais un truc que je trouve assez bien, mais Dev n'a pas validé, il me casse les pieds. Et inversement, quand la musique, l'instru, je trouve pas assez abouti, je casse. Donc vraiment, on est dans un truc de, finalement, perfection, imperfection, là, tu vois.
Depuis deux ans, tu es coach à The Voice Afrique francophone. Tu rencontres de nombreux talents depuis le début. Et tu en as rencontré un, Camerounais, que tu as décidé de signer sur ton label JC Records, que tu as monté avec Dave.
Lui, il m'a fait vibrer.
Ouais.
D'autres aussi, mais lui...
Mais lui en particulier.
Lui en particulier. Et vu qu'humainement, ça a bien matché aussi, je me suis dit, allez.
Allez, on le signe.
On essaie de faire quelque chose, on essaie de pousser le truc. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'à l'issue de ça, bon, les jeunes, ils rentrent chez eux, ils ont vécu une expérience extraordinaire. Mais ils ne savent pas forcément s'il y aura une suite, comment créer cette suite. Et donc, je me suis dit, je vais accorder un petit peu de mon temps pour accompagner
ce talent.
Et puis peut-être demain un autre, et ainsi de suite. Tu vois, on va avancer comme ça, comme, comme le font d'autres confrères, comme Youssoupha.
Ouais,
j'ai
ouais.
la chance aussi d'avoir ce jeune, donc, qui maintenant s'appelle Ful, son nom d'artiste c'est Ful, qui a une vraie confiance en mon travail, en mes conseils, et qui se donne
à fond, toujours.
Entièrement.
Ouais. Premier single, Elle n'a Dieu que pour moi.
Elle n'a Dieu que pour moi.
Tu as écrit la chanson.
Composé par Dave.
Dave a composé la musique.
Ouais.
Super accueil du public. Il y a beaucoup d'artistes qui ont validé Youssoupha dont tu parlais.
Ouais, exactement.
Il y a un instant, c'est le début de sa carrière. On a fait une grosse soirée au Cameroun pour le lancement.
Oui, on a fait une très très grosse soirée.
Titre, ouais.
C'était un très bel événement.
Ouais.
Il y avait pas mal d'artistes qui sont venus justement
le soutenir.
Donc merci d'ailleurs à ces artistes.
Charlotte, Loco.
Ouais. Parce que bon, ils soutiennent leur petit frère qui est Fulbert.
Mais bon,
ils soutiennent aussi ma démarche.
Mm.
Donc, c'est ce que j'ai aimé aussi chez mes frères camerounais. J'ai pas ressenti de rivalité du tout. Ils accueillent justement le petit frère. Ils sont venus lui donner la force. Mm. Et en plus, leur présence appelle aussi des médias. Et les médias aussi ont joué le jeu. Donc, voilà, c'est ce que j'ai vraiment aimé. J'espère que les médias des autres pays, les frères artistes des autres pays vont avoir la même réaction, tout
Exactement,
simplement.
Ouais.
Et que voilà, c'est un nouveau, c'est un nouveau dans la famille musicale. On est tous dans le même bateau
et on lui
dans la même direction.
Ouais, clair. Là, tu viens de signer chez Universal Music Africa.
Exactement.
Tu vas sortir un nouvel album. On a écouté l'album ensemble, en faisant un trajet Douala. Un très très long trajet Douala.
Très long, ouais. Mais c'était cool.
Puisqu'on écoutait.
Voilà, c'était cool aussi l'album. Parce que parfois, on passe jamais autant de temps ensemble.
Ouais.
Tu vois à discuter.
À chaque fois, c'est speed.
Écouter du son, échanger les idées. Tu vois quand on se croise, quand je passe à la maison chez toi ou inversement, on prend un verre, machin. Mais...
Ouais.
Là, on était vraiment dans... On regardait le paysage
passer. Ouais, 7 heures, on a fait 7 heures.
Ouais.
Super album. Là, je pense qu'il va... Ça va être l'un des meilleurs albums de ta carrière.
Merci beaucoup.
Bravo, Singila. Bravo, un grand bravo.
Merci, Brice.
Pour cette belle carrière, je te souhaite 20 ans de plus. Et je peux te faire une promesse, c'est que je serai toujours là pour te soutenir. Tu peux compter sur moi, c'est la famille.
Merci, c'est la famille. Tu sais qu'on est ensemble maintenant, on marche ensemble, on meurt ensemble.
Yes. Chin, mon frère.
Chin, bro. On peut dire que j'ai bien fait de m'entêter.